Chapitre 11. Le bracelet de cheveux. Mon cher ami, dit Aliette, j'ai la plus grande estime pour vous et la plus grande vénération pour Cazotte. J'admets parfaitement l'influence de votre mauvais génie, mais il y a une chose que vous oubliez, et dont je suis, moi, un exemple. C'est que la mort ne tue pas la vie. La mort n'est qu'un mode de transformation du corps humain. La mort tue la mémoire, voilà tout. Si la mémoire ne mourait pas, chacun se souviendrait de toutes les pérégrinations de son âme, depuis le commencement du monde jusqu'à nous. La pierre philosophale n'est pas autre chose que ce secret. C'est ce secret qu'avait trouvé Pythagore, et qu'ont retrouvé le comte de Saint-Germain et Cagliostro. C'est ce secret que je possède à mon tour, et qui fait que mon corps mourra, comme je me rappelle positivement que cela lui est déjà arrivé 4 ou 5 fois. Et encore, quand je dis que mon corps mourra, je me trompe. Il y a certains corps qui ne meurent pas. Je suis de ceux-là. Monsieur Aliette, dit le docteur, voulez-vous d'avance me donner une permission ? Laquelle ? C'est de faire ouvrir votre tombeau 1 mois après votre mort. Un an, 10 ans, quand vous voudrez, docteur. Seulement prenez vos précautions, car le mal que vous ferez à mon cadavre pourrait nuire à l'autre corps dans lequel mon âme serait entrée. Ah si, vous croyez à cette folie. Je suis payé pour y croire, j'ai vu. Qu'avez-vous vu ? Un de ces morts vivants ? Oui. Voyons, monsieur Aliette, puisque chacun a raconté son histoire, racontez aussi la vôtre. Il serait curieux que ce fût la plus vraisemblable de la société. Bon, vraisemblable ou non, docteur, la voici dans toute sa vérité. J'allais de Strasbourg aux eaux de Louèche. Vous connaissez la route, docteur ? Non, mais importe, allez toujours. J'allais donc de Strasbourg aux eaux de Louèche, et je passais naturellement par Bâle, où je devais quitter la voiture publique pour prendre un voiturin. Arrivé à l'hôtel de la Couronne que l'on m'avait recommandé, je manquai d'une voiture et d'un voiturin, priant mon hôte de s'informer si quelqu'un dans la ville n'était point en disposition de faire la même route que moi. Alors il était chargé de proposer à cette même personne une association qui devait naturellement rendre à la fois la route plus agréable et moins coûteuse. Le soir, il revint, ayant trouvé ce que je demandais. La femme d'un négociant bâlois qui venait de perdre son enfant, âgé de 3 mois, qu'elle nourrissait elle-même, avait fait, à la suite de cette perte, une maladie pour laquelle on lui ordonnait les eaux de Louèche. C'était le premier enfant de ce jeune ménage, marié depuis 1 an. Mon hôte me raconta qu'on avait eu grand-peine à décider la femme à quitter son mari. Elle voulait absolument ou rester à Bâle ou qu'il vînt avec elle à Wesh, mais d'un autre côté, l'état de sa santé exigeant les eaux, tandis que l'état de leur commerce exigeait sa présence à Bâle, elle s'était décidée et partait avec moi le lendemain matin. Sa femme de chambre l'accompagnait. Un prêtre catholique desservant l'église d'un petit village des environs nous accompagnait et occupait la 4e place dans la voiture. Le lendemain, vers 8 heures du matin, la voiture vint nous prendre à l'hôtel. Le prêtre y était déjà. J'y montai à mon tour et nous allâmes prendre la dame et sa femme de chambre. Nous assistâmes de l'intérieur de la voiture aux adieux des deux époux qui, commencés au fond de leur appartement, continuèrent dans le magasin et ne s'achevèrent que dans la rue. Sans doute la femme avait quelques pressentiments, car elle ne pouvait se consoler. On lui dit que, au lieu de partir pour un voyage d'une cinquantaine de lieues, elle partait pour faire le tour du monde. Le mari paraissait plus calme qu'elle, mais néanmoins était plus ému qu'il ne convenait raisonnablement pour une pareille séparation. Nous partîmes enfin. Nous avions naturellement, le prêtre et moi, donné les deux meilleures places à la voyageuse et à sa femme de chambre, c'est-à-dire que nous étions sur le devant et elles au fond. Nous prîmes la route de Soleur et le premier jour, nous allâmes coucher à Mundischville. Toute la soirée, notre compagnie avait été tourmentée et inquiète. Le soir, ayant vu passer une voiture de retour, elle voulait reprendre le chemin de Bâle. Sa femme de chambre parvint cependant à la décider à continuer sa route. Le lendemain, nous nous mîmes en route vers 9h du matin. La journée était courte. Nous ne comptions pas aller plus loin que Soleur. Vers le soir, et comme nous commencions d'apercevoir la ville, notre malade tressaillit. « Ah ! Dit-elle, arrêtez ! On court après nous !» Je me penchai hors de la portière. « Oh non, vous vous trompez, madame, répondis-je, la route est parfaitement vide. » « C'est étrange, insista-t-elle. J'entends le galop, le cheval. » Je crus avoir mal vu. Je sortis plus avant, hors de la voiture. « Non, personne, madame, lui dis-je, personne. » Elle regarda elle-même et vit, comme moi, la route déserte. « Je m'étais trompé, dit-elle en se rejetant au fond de la voiture. Et elle ferma les yeux comme une femme qui veut concentrer sa pensée en elle-même. Le lendemain, nous partîmes à 5h du matin. Cette fois, la journée était longue. Notre conducteur vint coucher à Berne. À la même heure que la veille, c'est-à-dire vers 5h, notre compagne, sortie d'une espèce de sommeil où elle était, et étendant les bras vers le cocher. « Au conducteur, dit-elle, arrêtez, cette fois j'en suis sûr, on court après nous. » « Madame se trompe, répondit le cocher, je ne vois que les trois paysans qui viennent de nous croiser et qui suivent tranquillement leur chemin. Oh, mais j'entends le galop du cheval. » Ces paroles étaient dites avec une telle conviction que je ne pus m'empêcher de regarder derrière nous. Comme la veille, la route était absolument déserte. « C'est impossible, madame, répondis-je, je ne vois pas de cavalier. » « Mais comment se fait-il que vous ne voyez point de cavalier, puisque je vois, moi, l'ombre d'un homme et d'un cheval ?» Je regardais dans la direction de sa main, et je vis en effet l'ombre d'un cheval et d'un cavalier. Mais je cherchais inutilement les corps auxquels les ombres appartenaient. Je fis remarquer cet étrange phénomène au prêtre, qui se signa. Peu à peu, cette ombre s'éclaircit, devint d'instant en instant moins visible et enfin disparut tout à fait. Nous entrâmes à Berne. Tous ces présages paraissaient fatals à la pauvre femme. Elle disait sans cesse qu'elle voulait retourner, mais cependant elle continuait son chemin. Soit inquiétude morale, soit progrès naturel de la maladie, en arrivant à Thun, la malade se trouva si souffrante qu'il lui fallut continuer son chemin en litière. Ce fut ainsi qu'elle traversa la Kandertal et le Djemmi. En arrivant à Louech, un hérésipel se déclara, et pendant plus d'un mois, elle fut sourde et aveugle. Au reste, ses pressentiments ne l'avaient pas trompée. À peine avait-elle fait 20 lieues que son mari avait été pris d'une fièvre cérébrale. Et la maladie avait fait des progrès si rapides que le même jour, sentant la gravité de son état, il avait envoyé un homme à cheval pour prévenir sa femme et l'inviter à revenir. Mais entre Laufen et Breintenbach, le cheval s'était abattu, et le cavalier étant tombé, sa tête avait donné contre une pierre, et il était resté dans une auberge, ne pouvant rien pour celui qui l'avait envoyé que de le faire prévenir de l'accident qui lui était arrivé. Alors on avait envoyé un autre courrier, mais sans doute il y avait une fatalité sur eux. À l'extrémité du Kandertal, il avait quitté son cheval et pris un guide pour monter le plateau du Schwalbach qui sépare l'Oberland du Valais, quand, à moitié chemin, une avalanche roulant du mont Athels l'avait entraîné avec elle dans un abîme, et le guide avait été sauvé comme par miracle. Pendant ce temps, le mal faisait des progrès terribles. On avait été obligé de raser la tête du malade qui portait des cheveux très longs afin de lui appliquer de la glace sur le crâne. À partir de ce moment, le moribond n'avait plus conservé aucun espoir. Et dans un moment de calme, il avait écrit à sa femme « Chère Bertha, je vais mourir, mais je ne veux pas me séparer de toi tout entier. Fais-toi faire un bracelet des cheveux qu'on vient de me couper et que je fais mettre à part. Porte-le toujours, et il me semble qu'ainsi nous serons encore réunis. Ton Frédéric. » Puis il avait remis cette lettre à un troisième express, à qui il avait ordonné de partir aussitôt qu'il serait expiré. Le soir même, il était mort. 1 heure après sa mort, l'express était parti, et plus heureux que ses deux prédécesseurs, il était vers la fin du 5e jour, arrivé à Louèche. Mais il avait trouvé la femme aveugle et sourde. Au bout d'un mois seulement, grâce à l'efficacité des eaux, cette double infirmité avait commencé à disparaître. Ce n'était qu'un autre mois écoulé qu'on avait osé apprendre à la femme la fatale nouvelle, à laquelle du reste les différentes visions qu'elle avait eues, elle avait préparées. Elle était restée un dernier mois pour se remettre complètement. Enfin, après 3 mois d'absence, elle était repartie pour Bâle. Comme de mon côté j'avais achevé mon traitement, que l'infirmité pour laquelle j'avais pris les eaux et qui était un rhumatisme allait beaucoup mieux, je lui demandai la permission de partir avec elle, ce qu'elle accepta avec reconnaissance. Ayant trouvé en moi une personne à qui parler de son mari, que je n'avais fait qu'entrevoir au moment du départ, mais enfin que j'avais vu. Nous quittâmes Louèche et le 5e jour au soir, nous étions de retour à Bâle. Rien ne fut plus triste et plus douloureux que la rentrée de cette pauvre veuve dans sa maison. Comme les deux jeunes gens étaient seuls au monde, le mari mort, on avait fermé le magasin, le commerce avait cessé, comme cesse le mouvement lorsqu'une pendule s'arrête. On envoya chercher le médecin qui avait soigné le malade, les différentes personnes qu'il avait assisté à ses derniers moments, et par eux, en quelque sorte, on ressuscita cette agonie, on reconstruisit cette mort déjà presque oubliée chez ces cœurs indifférents. Elle redemanda au moins ses cheveux que son mari lui léguait. Le médecin se rappela bien avoir ordonné qu'on les lui coupât. Le barbier se souvint bien d'avoir rasé le malade, mais voilà tout. Les cheveux avaient été jetés au vent, dispersés, perdus. La femme fut désespérée. Ce seul et unique désir du moribond, qu'elle portât un bracelet de ses cheveux, était donc impossible à réaliser. Plusieurs nuits s'écoulèrent, nuits profondément tristes, pendant lesquelles la veuve, errante dans la maison, semblait bien plutôt une ombre qu'elle-même, qu'un être vivant. À peine couchée, ou plutôt à peine endormie, elle sentait son bras droit tomber dans l'engourdissement, mais elle ne se réveillait qu'au moment où cet engourdissement lui semblait gagner le cœur. Cet engourdissement commençait au poignet, c'est-à-dire à la place où aurait dû être le bracelet de cheveux, et où elle sentait une pression pareille à celle d'un bracelet de fer trop étroit, et du poignet, comme nous l'avons dit, l'engourdissement gagnait le cœur. Il était évident que le mort manifestait son regret de ce que ses volontés avaient été si mal suivies. La veuve comprit ses regrets qui venaient de l'autre côté de la tombe. Elle résolut d'ouvrir la fosse et, si la tête de son mari n'avait pas été entièrement rasée, d'y recueillir assez de cheveux pour réaliser son dernier désir. En conséquence, sans rien dire de ses projets à personne, elle envoya chercher le fossoyeur. Mais le fossoyeur qui avait enterré son mari était mort. Le nouveau fossoyeur, entré en exercice depuis 15 jours seulement, ne savait pas où était la tombe. Alors, espérant une révélation, elle qui, par la double apparition du cheval, du cavalier, elle qui, par la pression du bracelet, avait le droit de croire au prodige, elle se rendit seule au cimetière, s'assit sur un tertre couvert d'herbes vertes et vivaces comme il en pousse sur les tombes, et là, elle invoqua quelques nouveaux signes auxquels elle put se rattacher pour ses recherches. Une danse macabre était peinte sur le mur de ce cimetière. Ses yeux s'arrêtèrent sur la mort et se fixèrent longtemps sur cette figure railleuse et terrible à la fois. Alors il lui sembla que la mort levait son bras décharné et du bout de son doigt osseux désignait une tombe au milieu des dernières tombes. La veuve alla droit à cette tombe et quand elle y fut, il lui sembla voir bien distinctement la mort qui laissait retomber son bras à la place primitive. Alors elle fit une marque à la tombe, alla chercher le fossoyeur, le ramena à l'endroit désigné et lui dit « Causez, c'est ici. » J'assistais à cette opération. J'avais voulu suivre cette merveilleuse aventure jusqu'au bout. Le fossoyeur creusa. Arrivé au cercueil, il leva le couvercle. D'abord, il avait hésité, mais la veuve lui avait dit d'une voix ferme « Levez, c'est le cercueil de mon mari. » Il obéit donc, tant cette femme savait inspirer aux autres la confiance qu'elle possédait elle-même. Alors apparut une chose miraculeuse et que j'ai vue de mes yeux. Non seulement le cadavre était le cadavre de son mari, non seulement ce cadavre, à la pâleur près, était tel que de son vivant, mais encore, depuis qu'ils avaient été rasés, c'est-à-dire depuis le jour de sa mort, ses cheveux avaient poussé de telle sorte qu'ils sortaient comme des racines par toutes les fissures de sa bière. Alors la pauvre femme se pencha vers ce cadavre qui semblait seulement endormi. Elle le baisa au front, coupa une mèche de ses longs cheveux si merveilleusement poussés sur la tête d'un mort et en fit faire un bracelet. Depuis ce jour, l'engourdissement nocturne cessa. Seulement, à chaque fois qu'elle était prête à courir quelque grand danger, une douce pression, une amicale étreinte du bracelet, l'avertissait de se tenir sur ses gardes. Eh bien, croyez-vous que ce mort fut réellement mort? Que ce cadavre fut bien un cadavre, moi? Je ne le crois pas. Et demanda la dame pâle, avec un timbre si singulier qu'il nous fit tressaillir tous dans cette nuit où l'absence de lumière nous avait laissés. Vous n'avez pas entendu dire que ce cadavre fut jamais sorti du tombeau? Vous n'avez pas entendu dire que personne n'eût eu à souffrir de sa vue et de son contact? Non, 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 dit Aliette, j'ai quitté le pays. « Ah, dit le docteur, vous avez tort, monsieur Aliette, d'être de si facile composition. Voici madame Grégoriska qui était toute prête à faire de votre bon marchand de bal en Suisse un vampire polonais, valaque ou hongrois. Est-ce que pendant votre séjour dans les monts Carpates, continua en riant le docteur, est-ce que, par hasard, vous auriez vu des vampires ?» Écoutez, dit la dame pâle avec une étrange solennité, puisque tout le monde ici a raconté une histoire, j'en veux raconter une aussi. Docteur, vous ne direz pas que l'histoire n'est pas vraie, c'est la mienne. Vous allez savoir pourquoi je suis si pâle. » En ce moment, un rayon de lune glissa par la fenêtre, à travers les rideaux, et venant se jouer sur le canapé où elle était couchée, l'enveloppa d'une lumière bleuâtre qui semblait faire d'elle une statue de marbre noir couchée sur un tombeau. Pas une voix n'accueillit la proposition, mais le silence profond qui régna dans le salon annonça que chacun attendait avec anxiété. Chapitre 12. Les monts Carpates. Je suis polonaise, née à Sandomir, c'est-à-dire dans un pays où les légendes deviennent des articles de foi, où nous croyons à nos traditions de famille autant plus peut-être qu'à l'Évangile. Pas un de nos châteaux qui n'est son spectre, pas une de nos chaumières qui n'est son esprit familier. Chez le riche comme chez le pauvre, dans le château comme dans la chaumière, on reconnaît le principe ami comme le principe ennemi. Parfois, ces deux principes entrent en lutte et combattent. Alors, ce sont des bruits si mystérieux dans les corridors, des rugissements si épouvantables dans les vieilles tours, des tremblements si effrayants dans les murailles, que l'on s'enfuit de la chaumière comme du château, et que paysans ou gentilshommes courent à l'église chercher la croix bénie ou les saintes reliques, seul préservatif contre les démons qui nous tourmentent. Mais là aussi, deux principes plus terribles, plus acharnés, plus incapables encore, sont en présence. La tyrannie et la liberté. L'année 1825 vit se livrer entre la Russie et la Pologne une de ces luttes dans lesquelles on croirait que tout le sang d'un peuple est épuisé, comme souvent s'épuise tout le sang d'une famille. Mon père et mes deux frères s'étaient levés contre le nouveau tsar et avaient été se ranger sous le drapeau de l'indépendance polonaise, toujours abattu, toujours relevé. Un jour, j'appris que mon plus jeune frère avait été tué. Un autre jour, on m'annonça que mon frère aîné était blessé à mort. Enfin, après une journée pendant laquelle j'avais écouté avec terreur le bruit du canon qui se rapprochait incessamment, je vis arriver mon père avec une centaine de cavaliers, débris de 3000 hommes qu'il commandait. Il venait s'enfermer dans notre château avec l'intention de s'ensevelir sous ses ruines. Mon père, qui ne craignait rien pour lui, tremblait pour moi. En effet, pour mon père, il ne s'agissait que de la mort, car il était bien sûr de ne pas tomber vivant aux mains de ses ennemis, mais pour moi, il s'agissait de l'esclavage, du déshonneur, de la honte. Alors mon père, parmi les 100 hommes qui lui restaient, en choisit 10, appela l'intendant, lui remit tout l'or et tous les bijoux que nous possédions, et se rappelant que lors du second partage de la Pologne, ma mère, presque enfant, avait trouvé un refuge inabordable dans le monastère de Sarastrou, situé au milieu des monts Carpates, il lui ordonna de me conduire dans ce monastère qui, hospitalier à la mère, ne serait pas moins hospitalier sans doute à la fille. Malgré le grand amour que mon père avait pour moi, les adieux ne furent pas longs. Selon toute probabilité, les Russes devaient être le lendemain en vue du château. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Je revêtis à la hâte un habit d'Amazone avec lequel j'avais l'habitude d'accompagner mes frères à la chasse. On me sella le cheval le plus sûr de l'écurie. Mon père glissa ses propres pistolets, chef-d'œuvre de la manufacture de Toula, dans mes fontes, m'embrassa et donna l'ordre du départ. Pendant la nuit et pendant la journée du lendemain, nous fîmes 20 lieues en suivant les bords d'une de ces rivières sans nom qui viennent se jeter dans la Vistule. Cette première étape doublée nous avait mis hors de la portée des Russes. Au dernier rayon du soleil, nous avions vu étinceler les sommets neigeux des monts Carpates. Vers la fin de la journée du lendemain, nous atteignîmes leur base. Enfin, dans la matinée du troisième jour, nous commençâmes à nous engager dans une de leurs gorges. Nos monts Carpates ne ressemblent point aux montagnes civilisées de votre Occident. Tout ce que la nature a d'étrange et de grandiose s'y présente au regard dans sa plus complète majesté. Leurs cimes orageuses se perdent dans les nues, couvertes de neige éternelle. Leurs immenses forêts de sapins se penchent sur le miroir poli de lacs pareils à des mers. Et ces lacs, jamais une nacelle ne les a sillonnés. Jamais le filet d'un pêcheur n'a troublé leur cristal profond comme l'azur du ciel. La voix humaine y retentit à peine de temps en temps, faisant entendre un chant moldave auquel répondent les cris des animaux sauvages. Chants et cris vont éveiller quelque écho solitaire, tout étonné qu'une rumeur quelconque lui ait appris sa propre existence. Et pendant bien des milles, on voyage sous les voûtes sombres de bois coupées par ces merveilles inattendues que la solitude nous révèle à chaque pas et qui font passer notre esprit de l'étonnement à l'admiration. Oh là, le danger est partout. Il se compose de 1000 dangers différents, mais on n'a pas le temps d'avoir peur, tant ces dangers sont sublimes. Tantôt, ce sont des cascades improvisées par la fonte des glaces, qui, bondissant de rochers en rochers, envahissent tour à tour les 3 sentiers que vous suivez, sentiers tracés par le passage de la bête fauve et du chasseur qui la poursuit, et tantôt ce sont des arbres minés par le temps qui se détachent du sol et tombent avec un fracas terrible qui semble être celui d'un tremblement de terre. Tantôt enfin, ce sont les ouragans qui vous enveloppent de nuages au milieu desquels on voit jaillir, s'allonger, se tordre l'éclair, pareil à un serpent de feu. Puis, après ces pics alpestres, après ces forêts primitives, comme vous avez eu des montagnes géantes, comme vous avez eu des bois sans limite, vous avez des steppes sans fin, véritables mers avec ses vagues et ses tempêtes, savanes arides et bosselées où la vue se perd dans un horizon sans bornes. Alors, ce n'est plus la terreur qui s'empare de vous, c'est la tristesse qui vous inonde. C'est une vaste et profonde mélancolie dont rien ne peut distraire, car l'aspect du pays, aussi loin que votre regard peut s'étendre, est toujours le même. Vous montez, vous descendez 20 fois des pentes semblables, cherchant vainement un chemin tracé. En vous voyant ainsi perdu dans votre isolement, au milieu des déserts, vous vous croyez seul dans la nature, et votre mélancolie devient de la désolation. En effet, la marche semble être devenue une chose inutile et qui ne vous conduira à rien. Vous ne rencontrez ni village, ni château, ni chaumière, nulle trace d'habitation humaine. Parfois seulement, comme une tristesse de plus dans ce morne paysage, un petit lac sans roseaux, sans buissons, endormi au fond d'un ravin, comme une autre mer morte, vous barre la route avec ses eaux vertes au-dessus desquelles s'élèvent à votre approche quelques oiseaux aquatiques aux cris prolongés et discordants. Puis vous faites un détour, vous gravissez la colline qui est devant vous, vous descendez dans une autre vallée, vous gravissez une autre colline, et cela dure ainsi jusqu'à ce que vous ayez épuisé la chaîne moutonneuse qui va toujours en s'amoindrissant. Mais cette chaîne épuisée, si vous faites un coude vers le midi, alors le paysage reprend du grandiose, alors vous apercevez une autre chaîne de montagnes plus élevée, de forme plus pittoresque, d'aspect plus riche. Celle-là est toute en panaché de forêts, toute coupée de ruisseaux. Avec l'ombre et l'eau, la vie renaît dans le paysage. On entend la cloche d'un ermitage. On voit serpenter une caravane au flanc de quelques montagnes. Enfin, au dernier rayon du soleil, on distingue, comme une bande de blancs oiseaux appuyés les uns aux autres, les maisons de quelques villages qui semblent s'être groupés pour se préserver de quelque attaque nocturne. Car avec la vie est revenu le danger, et ce ne sont plus, comme dans les premiers monts que l'on a traversés, des bandes d'ours et de loups qu'il faut craindre, mais des hordes de brigands moldaves qu'il faut combattre. Cependant, nous approchions. 10 journées de marche s'étaient passées sans accident. Nous pouvions déjà apercevoir la cime du mont Piron, qui dépasse de la tête toute cette famille de géants, et sur le versant méridional duquel est situé le couvent de Sarastru, où je me rendais. Encore 3 jours, et nous étions arrivés. Nous étions à la fin du mois de juillet. La journée avait été brûlante et c'était avec une volupté sans pareille que vers 4 heures nous avions commencé d'aspirer les premières fraîcheurs du soir. Nous avions dépassé les tours en ruine de Nianso. Nous descendions vers une plaine que nous commencions d'apercevoir à travers l'ouverture des montagnes. Nous pouvions déjà, d'où nous étions, suivre les yeux le cours de la Bistritsa, aux rives émaillées de rouges zafrines et de grandes campanules aux fleurs blanches. Nous côtoyions un précipice au fond duquel roulait la rivière, qui là n'était encore qu'un torrent. À peine nos montures avaient-elles un assez large espace pour marcher 2 de front. Notre guide nous précédait, couché de côté sur son cheval, chantant une chanson moldaque aux monotones modulations et dont je suivais les paroles avec un singulier intérêt. Le chanteur était en même temps le poète. Quant à l'air, il faudrait être un de ces hommes des montagnes pour vous le rendre dans toute sa sauvage tristesse et dans toute sa sombre simplicité. Bon, voici les paroles. Dans le marais de Stavila, où tant de sang guerrier coula, voyez-vous ce cadavre-là? Ce n'est point un fils d'Illyrie, c'est un brigand plein de furie, qui trompant la douce Marie, extermina, trompa, brûla. Une balle au cœur du brigand a passé comme un ouragan, dans sa gorge est un yatagan. Mais depuis 3 jours, ô mystère, sous le pin morne et solitaire, son sang tiède abreuve la terre et noircit le pâle vigron. Ses yeux bleus pour jamais ont lui, fuyons tous, malheur à celui qui passe au marais près de lui. C'est un vampire. Le loup fauve, loin du cadavre impur, se sauve, et sur la montagne au front chauve, le funèbre vautour a fui. Tout à coup, la détonation d'une arme à feu se fit entendre et une balle siffla. La chanson s'interrompit, et le guide, frappé à mort, alla rouler au fond du précipice, tandis que son cheval s'arrêtait frémissant en allongeant sa tête intelligente vers le fond de l'abîme où avait disparu son maître. En même temps, un grand cri s'éleva et nous vîmes se dresser au flanc de la montagne une 30aine de bandits. Nous étions complètement entourés. Chacun saisit son arme, et quoique prise à l'improviste, comme ceux qui m'accompagnaient étaient de vieux soldats habitués au feu, ils ne se laissèrent pas intimider et ripostèrent. Moi-même, donnant l'exemple, je saisis un pistolet et, sentant le désavantage de la position, je criai « En avant !» et piquai mon cheval qui s'emporta dans la direction de la plaine. Mais nous avions affaire à des montagnards, bondissant de rochers en rochers, comme de véritables démons des abîmes, faisant feu tout en bondissant et gardant toujours sur notre flanc la position qu'ils avaient prise. D'ailleurs, notre manœuvre avait été prévue. À un endroit où le chemin s'élargissait, où la montagne faisait un plateau, Un jeune homme nous attendait à la tête d'une dizaine de gens à cheval, et alors en nous apercevant, ils mirent leur monture au galop et vinrent nous heurter le front, tandis que ceux qui nous poursuivaient se laissaient rouler des flancs de la montagne, et nous ayant coupé la retraite, nous enveloppaient de tous côtés. La situation était grave, mais cependant, habitué dans mon enfance aux scènes de guerre, je pus l'envisager sans en perdre un détail. Tous ces hommes, vêtus de peau de mouton, portaient d'immenses chapeaux ronds couronnés de fleurs naturelles, comme ceux des Hongrois. Ils avaient chacun à la main un long fusil turc qu'ils agissaient, après avoir tiré en poussant des cris sauvages, et à la ceinture un sabre recourbé et une paire de pistolets. Quant à leur chef, c'était un jeune homme de 22 ans à peine, au teint pâle, aux longs yeux noirs, aux cheveux tombants bouclés sur ses épaules. Son costume se composait de la robe moldave garnie de fourrure et serrée à la taille par une écharpe à bandes d'or et de soie. Un sabre recourbé brillait à sa main et 4 pistolets étincelaient à sa ceinture. Pendant le combat, il poussait des cris rauques et inarticulés qui semblaient ne point appartenir à la langue humaine et qui cependant exprimaient ses volontés, car à ces cris, ces hommes obéissaient, se jetant ventre à terre pour éviter les décharges de nos soldats, se relevant pour faire feu à leur tour, abattant ce qui était debout encore, achevant les blessés et changeant enfin le combat en boucherie. J'avais vu tomber l'un après l'autre les 2/3 de mes défenseurs. 4 restaient encore debout, se serrant autour de moi, ne demandant pas une grâce qu'ils étaient en certain de ne pas obtenir, mais ne songeant qu'à une chose, à vendre leur vie le plus cher possible. Alors le jeune chef jeta un cri plus expressif que les autres en étendant la pointe de son sabre vers nous. Sans doute cet ordre était d'envelopper d'un cercle de feu ce dernier groupe et de nous fusiller tous ensemble, car les longs mousquets moldaves s'abaissèrent d'un même mouvement. Je compris que notre dernière heure était venue. Je levai les yeux et les mains au ciel avec une dernière prière, et j'attendis la mort. En ce moment, je vis, oh non pas descendre, mais se précipiter, mais bondir de rocher en rocher, un jeune homme, qui s'arrêta debout sur une pierre dominant toute cette scène, pareille à une statue sur un piédestal, et qui, étendant la main sur le champ de bataille, ne prononça que ce seul mot « Assez !» À cette voix, tous les yeux se levèrent, chacun parut obéir à ce nouveau maître. Un seul bandit replaça son fusil à son épaule et lâcha le coup. Un de nos hommes poussa un cri, la balle lui avait cassé le bras gauche. Il se retourna aussitôt pour fondre sur l'homme qu'il avait blessé, mais avant que son cheval n'eût fait 4 pas, un éclair brillait au-dessus de notre tête et le bandit rebelle roulait la tête fracassée par une balle. Tant d'émotions diverses m'avaient conduit au bout de mes forces, je m'évanouis. Quand je revins à moi, j'étais couché sur l'herbe, la tête appuyée sur les genoux d'un homme dont je ne voyais que la main blanche et couverte de bagues, entourant ma taille, tandis que devant moi, debout les bras croisés, le sabre sous un de ses bras, se tenait le jeune chef moldave qui avait dirigé l'attaque contre nous. Kostaki, disait en français d'un ton d'autorité celui qui me soutenait, vous allez à l'instant même faire retirer vos hommes et me laisser le soin de cette jeune femme. Mon frère, répondit celui auquel ces paroles étaient adressées et qui semblait se contenir avec peine. Mon frère, prenez garde de laisser ma patience. Je vous laisse le château, laissez-moi la forêt. Au château, vous êtes le maître, mais ici, je suis tout puissant. Ici, il me suffirait d'un mot pour vous forcer de m'obéir. Kostaki, je suis l'aîné. C'est vous dire que je suis le maître partout, dans la forêt comme au château, là-bas comme ici. Oh, je suis du sang des Brankovans, comme vous. Sang royal qui a l'habitude de commander, et je commande. Ben, vous commandez, vous, Grégoriska, vos valets, oui, mais à mes soldats, non. Vos soldats sont des brigands, Kostaki. Des brigands que je ferai pendre au créneau de nos tours, s'ils n'obéissent pas à l'instant même. Eh bien, essayez donc de leur commander. Alors, je sentis que celui qui me soutenait retirait son genou et posait doucement ma tête sur une pierre. Je le suivis du regard avec anxiété et je pus voir le même jeune homme qui était tombé, pour ainsi dire, du ciel au milieu de la mêlée et que je n'avais pu qu'entrevoir, m'étant évanoui au moment même où il avait parlé. C'était un jeune homme de 24 ans, de haute taille, avec de grands yeux bleus dans lesquels on lisait une résolution et une fermeté singulières. Ses longs cheveux blonds, indice de la race slave, tombaient sur ses épaules comme ceux de l'archange Michel, encadrant des joues jeunes et fraîches. Ses lèvres étaient relevées par un sourire dédaigneux et laissaient voir une double rangée de perles. Son regard était celui que croise l'aigle avec l'éclair. Il était vêtu d'une espèce de tunique en velours noir, un petit bonnet pareil à celui de Raphaël, orné d'une plume d'aigle. Avec la tête couverte, il avait un pantalon collant et des bottes brodées. Sa taille était serrée par un ceinturon supportant un couteau de chasse. Il portait en bandoulière une petite carabine à deux coups, dont un des bandits avait pu apprécier la justesse. Il étendit la main, et cette main étendue semblait commander à son frère lui-même. Il prononça quelques paroles en langue moldave. Ces mots parurent faire une profonde impression sur les bandits. Alors, dans la même langue, le jeune chef parla à son tour et je devinais que ses paroles étaient mêlées de menaces et d'imprécations. Mais à ce long et bouillant discours, l'aîné des deux frères ne répondit qu'un mot. Les bandits s'inclinèrent. Il fit un geste. Les bandits se rangèrent derrière nous. « Eh bien, soit, Grégoriska, dit Kostaki, reprenant la langue française. Cette femme n'ira pas à la caverne, mais elle n'en sera pas moins à moi. Je la trouve belle, je l'ai conquise et je la veux. » Mais en disant ces mots, il se jeta sur moi et m'enleva dans ses bras. Cette femme sera conduite au château et remise à ma mère. Et je ne la quitterai pas d'ici là, répondit mon protecteur. Mon cheval, cria Kostaki en langue moldave. 10 bandits se hâtèrent d'obéir et amenèrent à leur maître le cheval qu'il demandait. Grigoriska regarda autour de lui, saisi par l'abri d'un cheval sans maître, et sauta dessus sans toucher les étriers. Kostaki se mit presque aussi légèrement en selle que son frère, quoiqu'il me tînt encore entre ses bras, et partit au galop. Le cheval de Grigoriska sembla avoir reçu la même impulsion et vint coller sa tête et son flanc à la tête et au flanc du cheval de Kostaki. C'était une chose curieuse à voir que ces deux cavaliers volant côte à côte, sombres, silencieux, ne se perdant pas un seul instant de vue, sans avoir l'air de se regarder, s'abandonnant à leurs chevaux, dont la course désespérée les emportait à travers les bois, les rochers et les précipices. Ma tête renversée me permettait de voir les beaux yeux de Grigoriska fixés sur les miens. Kostaki s'en aperçut, me releva la tête et je ne vis plus que ce regard sombre qui me dévorait. Je baissai mes paupières, mais ce fut inutilement. À travers leur voile, je continuais à voir ce regard lancinant qui pénétrait jusqu'au fond de ma poitrine et me perçait le cœur. Alors, une étrange hallucination s'empara de moi. Il me sembla être la Lénore de la ballade de Bürger, emportée par le cheval et le cavalier fantôme. Et lorsque je sentis que nous nous arrêtions, ce ne fut qu'avec terreur que j'ouvris les yeux, tant j'étais convaincu que je n'allais voir autour de moi que croix brisées et tombes ouvertes. Oh, ce que je vis n'était guère plus gai. C'était la cour intérieure d'un château moldave, bâti au XIVe siècle.